Bonjour, chers frères et sœurs, content de vous revoir. C'est Timothée qui est sur le programme aujourd'hui, et puis voilà, c'est moi qui suis là. Est-ce que vous savez ce verset biblique qui est dans la salle du conseil municipal à Mulhouse? Je l'ai déjà dit en plus, hein. Eh ouais, et puis vous ne vous souvenez pas, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors c'est en latin et c'est écrit en caractère gothique, donc vous avez une excuse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10. Ce matin, nous avons loué Dieu. Nous avons pris position devant Dieu. Nous avons commémoré que nous sommes ses créatures et que nous nous plaçons devant le Créateur. Nous lui reconnaissons ce statut de Créateur. Ça s'appelle en quelque sorte, et c'est le cas de le dire, remettre l'Église au milieu du village. Vous connaissez l'expression sans doute, c'est-à-dire remettre les choses en place, remettre les pendules à l'heure. Quand nous venons le dimanche, nous remettons les pendules à l'heure. Ce sera l'occasion d'arriver à l'heure d'ailleurs, au culte. C'est important de régulièrement raviver notre mémoire par la louange. Le commencement de la sagesse, puisque nous parlons de la sagesse, en tout cas c'est mon sujet de ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. Et la louange est une manière d'exprimer ce respect, cet honneur que nous rendons à Dieu. Nous voulons être sages. Venons au culte. Chantons à pleine voix. Sourions. Pleurons, vivons ses louanges, parlons à Dieu, écoutons sa parole. Nous voulons être sages, alors commençons par reconnaître que Dieu est Dieu. Nous voulons être sages dans nos vies, alors venons au culte et ravivons semaine après semaine notre mémoire, notre foi, notre adoration, notre louange pour Dieu. Laissons-nous toucher par lui. Imprégnons-nous de l'action de l'Esprit-Saint lors de ces heures communautaires. Cela posera le fondement de notre écoute de Dieu. Lorsque nous prendrons un texte de la Bible ensuite, demain, après-demain, nous saurons qui nous parle. Nous nous dirons, c'est Dieu, c'est le Dieu que j'ai loué, dont nous avons commémoré la puissance, la grandeur, la sagesse. C'est ce Dieu-là qui me parle. Vous connaissez l'émission Top Chef? On la regarde de temps en temps avec Jocelyne. C'est une émission, pour ceux qui ne connaissent pas, où des personnes font la cuisine. Le seul problème de ces émissions-là, c'est qu'on ne peut pas goûter ce qu'ils font. C'est quand même un côté frustrant, vous voyez. Et alors, il y a des chefs réputés qui leur disent qu'ils auraient dû faire ceci et pas cela, etc. Et puis, c'est une compétition. Et il y a un finaliste, ou une finaliste, qui a prouvé ses compétences, voilà, qui a fait des recettes extraordinaires. Enfin, on va le supposer parce qu'on ne va pas goûter. Imaginez-vous maintenant votre serviteur en train de faire sa vinaigrette dans sa cuisine. Si, Timothée vient, me dit Jean-Marc, pour faire ta vinaigrette, tu dois faire comme ci, comme ça, tu dois ajouter de l'échalote, tu dois... Ouais. Alors je vais regarder Timothée, je l'aime beaucoup Timothée, je vais dire, ouais bon, il est gentil Timothée, mais enfin bon, il ne sait pas plus faire la vinaigrette que moi. Hein, on fera un sondage, ouais. Mais si c'est le vainqueur de Top Chef qui arrive dans ma cuisine et qui me dit « Jean-Marc, pour faire ta vinaigrette, voilà comment tu dois faire. » Alors là, je vais être partout à écouter ce qu'il va me dire. Je vais dire « Ah oui, ok, je vais le faire. » Si c'est Dieu qui t'instruit, c'est pas la même chose que si c'est un quidam quelconque. Si c'est le Dieu que tu as loué dimanche dernier, qui t'instruit, tu vas faire comme si c'était le vainqueur ou un des grands cuisiniers qui vient t'apprendre à faire ta vinaigrette. Tu vas écouter et tu vas mettre en pratique tout de suite ce qu'il va te dire. La louange nous rappelle qui nous instruit dans notre vie. La louange nous rappelle le prestige du Dieu qui nous donne sa sagesse. Venons-en au récit du jour, qui sort, qui arrive après un cantique de louange. Nous sommes dans le livre de l'Exode aujourd'hui, nous ne sommes pas ni dans Top Chef, ni dans, mais nous sommes dans le livre de l'Exode. Le peuple d'Israël vient de sortir de l'esclavage, d'être délivré par Dieu, et vient de traverser la mer des joncs. Il se pensait perdu, coincé entre l'armée de Pharaon qui arrivait le massacrer et la mer des joncs qui le retenait. Et puis Dieu a ouvert un passage dans la mer des joncs et ils ont pu passer à pied sec de l'autre côté. Ouf, la louange explose. La louange est racontée et donnée au début du chapitre 15 du livre de l'Exode. C'est un peu comme si c'était le dimanche. On chante les louanges de Dieu, on lit des textes de la Bible, on se remémore, on dit « Oui, Dieu nous a délivrés, oui, Dieu nous a fait du bien !» Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Ça, c'est le dimanche. C'est le cantique de la délivrance. Et puis après, viennent les jours de la semaine. Le lundi, le mardi, etc. Moïse, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert de Chour. Ils firent 3 journées de marche le mercredi. Dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. L'angoisse reprend, la peur, les soucis. Manquer d'eau dans le désert, c'est un souci vital, n'est-ce pas? Moi qui ai fait quelques bonnes marches en Martinique, la première chose qu'on vous dit, c'est « prenez de l'eau !» Et des litres, pas juste un demi-litre. Et pour imaginer l'angoisse, il suffit de se dire qu'on est en ville. Je transpose, qu'on est en ville, qu'on a besoin d'appeler ceci et que tout à coup, notre téléphone n'a plus de batterie. Ça, c'est terrible. Et qu'on ne peut pas le recharger. On a évidemment oublié le chargeur. Pas d'eau dans le désert. Des soucis avec les enfants, peut-être? Des soucis de santé? Nos enfants qui ont des fréquentations délicates, des projets que nous avons et qui ne réussissent pas, des nuits blanches, des angoisses, de la panique, de la colère, du découragement. Le peuple dans le désert avait soif. Et nous, parfois, nous avons soif aussi. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère, verset 23. C'est pourquoi on l'a appelé du nom de Mara, ce qui veut dire amer. Le peuple se mit à maugréer contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Ce n'est pas parce que nous avons loué Dieu dimanche dernier que ce mercredi, cette semaine, tout va aller bien. Là, on aurait pu imaginer qu'après une telle délivrance, c'était l'autoroute. Les difficultés étaient finies. Penses-tu ? Ça n'allait pas être fini. Ce n'est pas parce que nous louons Dieu qu'il nous évitera les difficultés, que nous serons extirpés de ce monde. Et là, que faisons-nous quand nous rencontrons des difficultés? Eh bien, nous râlons. Nous ne voulons pas mieux que ces Israélites-là qui ont dit « Qu'est-ce qu'on va boire ?» Nous râlons, nous faisons des reproches au monde entier, à Dieu lui-même. Verset 25, Moïse cria vers le Seigneur. Le Seigneur lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. C'est là qu'il donna au peuple des prescriptions et des règles. C'est là aussi qu'il le mit à l'épreuve. Moïse cria vers Dieu. Or, on peut dire que c'était une prière un peu courte, sans doute, mais qui venait du cœur. C'est peut-être celles-ci qui sont les plus sincères. Un appel à l'aide dont on ne sait rien d'autre. On ne sait pas ce qu'il a dit vraiment, mais c'était un appel désespéré. Oui, Moïse lui-même avait certainement soif, comme les autres. Lui-même, en plus, avait la pression de ce peuple qui lui demandait « Qu'est-ce qu'on va boire ?» Moïse n'était pas en train de prier assis sur un tronc d'arbre avec un doux rayon de soleil, une petite brise et un hamburger de chez McDonald's à la main. Non, non, Moïse était dans la peine, lui aussi. Nous aussi, nous sommes dans la peine et faisons comme Moïse, crions. Crions à Dieu quand nous sommes dans notre cuisine parce que notre ado ne rentre pas à l'heure. Crions à Dieu quand nous sommes dans la salle de bain et que nous constatons une grosseur bizarre sur notre corps. Crions à Dieu quand nous sommes dans une difficulté financière, que la fin du mois commence beaucoup trop tôt dans le mois. Crions à Dieu comme Moïse l'a fait. Il n'allait pas bien, mais il a su s'adresser à Dieu. Et vers quel Dieu il a crié ? Vers le Dieu qu'ils avaient loué juste après qu'ils étaient sortis du pays, de la mer des gens. C'est vers ce Dieu-là. Il a su adresser à Dieu tout un poème, on le voit au début du chapitre 15, et là, c'était seulement un cri, mais c'était le même Dieu. Prenons le temps de la louange pour ensuite nous souvenir à qui nous crions quand ça ne va pas. Et Dieu donna une instruction, nous dit le verset. Le Seigneur lui indiqua, en hébreu le verbe est le même que celui qui a donné le mot « Torah ». Dieu l'instruisit de ce bois qu'il fallait jeter dans l'eau. Dieu donne une instruction. Dieu n'a pas fait de grands miracles. Dieu n'a pas ouvert quelqu'un de nouveau, une mer. Non, il a donné une instruction à Moïse. Et même le texte dit que c'est là qu'il donna au peuple des prescriptions et des règles. Autrement dit, par cet objet, ces morceaux de bois qui ont été jetés dans l'eau, Dieu apprend quelque chose. C'est une leçon par l'objet. Il paraît qu'en pédagogie, c'est très bien. Ce que je ne fais pas ce matin, j'aurais dû apporter un bout de bois, mais je n'avais pas d'eau de Marat. Si, on aurait pu mettre de l'eau dans le baptistère, mais bon. Dieu enseigne par l'objet. Tu vois cette eau de Marat, cette eau amère, tu vas pouvoir la boire si tu suis mon instruction. Tu vois ta vie, tu vois tes journées, tu vas pouvoir les rendre potables si tu suis mes instructions. Alors, le geste de Moïse a suscité beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que veut dire jeter du bois dans l'eau pour la rendre pure ? Alors certains exégètes, chrétiens, ont dit « Ah bien voilà, alors le bois, c'est le symbole de la croix de Jésus-Christ qui permet de rendre nos vies meilleures en supprimant notre culpabilité, en nous enlevant de sur nous notre péché. Je ne crois pas qu'il faille aller si loin. » Alors d'autres se sont demandé, mais de quel bois s'agit-il ? Mystère. Que signifie l'eau ? Une vie amère sans l'intervention de Dieu ? Laissons de côté ces interrogations parfois très techniques. Ce que je retiens, moi, et ce que je vous soumets, propose, c'est que Dieu aurait pu rendre l'eau de Marat potable même avant que le peuple arrive. Il en avait la capacité. Dieu aurait pu rendre l'eau de Marat potable simplement à la demande de Moïse, sans autre. Mais non, Dieu a donné une instruction pour que Moïse agisse, pour que Moïse fasse quelque chose. Moïse a écouté ensuite l'instruction de Dieu. Et heureusement, il aurait pu dire, « Bon Seigneur, écoute, là tu dois être fatigué, je ne sais pas, mais jeter du bois pour que l'eau soit potable, ça ne marchera jamais. » Non, Dieu, Moïse a fait confiance à Dieu et a fait ce geste qui peut-être le laissait dubitatif, mais il l'a fait. Et il a bien fait. Il a pu, par ce geste, étancher la soif du peuple. Le texte termine, enfin le verset 26, par « C'est moi, le Seigneur, qui te guéris ». Je vais le lire en entier. Il dit « Si vraiment tu écoutes le Seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui lui convient, si tu prêtes l'oreille à tes commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. » Et ils avaient en mémoire les plaies d'Égypte. Toutes ces choses terribles qui sont arrivées, c'est moi le Seigneur qui te guérit. Et bien voilà, ce Seigneur qui guérit, c'est lui qui donne les instructions. La sagesse, j'arrive à ce sujet de la sagesse, pour nous chrétiens, est un peu de cet ordre. Nous parlons volontiers de la sagesse d'en haut, d'ailleurs vous l'avez lu tout à l'heure, ce texte, magnifique texte, de Jacques, qui décrit les qualités de la sagesse qui vient d'en haut, autrement dit de Dieu. Nous parlons volontiers de Dieu, justement, qui nous inspire cette sagesse par la Bible, par l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, nous célébrons ce Dieu-là, ce Dieu qui nous donne la sagesse. Et nous avons raison de nous souvenir qui il est avant d'écouter l'instruction. Et nous serons d'autant plus motivés à écouter son instruction. Alors nous aurons, est-ce que peut-être on aura des eaux, pas de marah, mais des eaux douces, agréables, que nous rencontrerons pendant cette semaine. Mais nous aurons peut-être aussi des eaux amères, des moments difficiles. Et nous aurons besoin d'écouter l'instruction de Dieu. La Bible, la mise en balance de tout ce que nous avons appris. Que cette sagesse que Dieu inspire fasse du bien à nous et aux personnes qui nous entourent. Je vous rappelle quand même que pour Moïse, d'avoir suivi l'instruction de Dieu, ça a permis à plein de gens de boire après 3 jours de marche dans le désert. Est-ce que par hasard, ça ne devrait pas être une motivation pour nous de suivre la sagesse de Dieu, parce que ça va nous faire du bien à nous, mais ça fera du bien aussi à ceux qui nous entourent. Vous avez souligné tout à l'heure que la sagesse et relationnel, je ne sais plus qui d'entre vous l'a dit, mais c'est profondément juste, et par l'image de ce récit de Marat, on le voit. Vous avez déjà eu soif pendant toute une journée quand il fait chaud, et de boire, ça fait un bien fou. C'est ça que Dieu donne. Nous voulons faire du bien aux gens, nous voulons nous faire du bien à nous et faire du bien aux gens. Oui, alors recevons la sagesse de Dieu. Que la sagesse que nous recevons de Dieu en lisant la Bible, en nous laissant imprégner par ses pensées de Dieu, qu'elle soit porteuse de vie, qu'elle apporte de la paix, de l'apaisement, de la justice, de la joie, de l'amour, que nous soyons ouvriers de paix comme nous l'avons chanté. Soyons de bons amis. Parfois on se demande, nous chrétiens, comment pouvons-nous avoir des amis? Est-ce qu'ils doivent être chrétiens, non chrétiens, etc.? Moi, je ne pose pas ce genre de questions. J'en pose une. Est-ce que moi, je suis un bon ami pour ceux qui m'entourent? C'est à mon avis la question à se poser. Soyons de bons confidents, des gens qui donnent leur oreille, qui ne la prêtent pas seulement. Soyons de bons conseillers, de bons voisins, de bons collègues, de bons maris, de bonnes, j'allais dire des bonnes femmes, mais ça sonne pas bien. C'est... De bons parents, de bons enfants, de bons cousins, de bons neveux, de bonnes nièces, etc. Je sors d'un univers familial très complexe, alors la liste est longue. Soyons des témoins actifs du Dieu vivant dans les situations tendues, par nos paroles justes. Avec des paroles qui calment plutôt qu'elles n'attisent, la colère, dans des paroles qui construisent plutôt qu'elles ne cassent, qui pardonnent plutôt qu'elles ne gardent rancune. Nous avons sans cesse besoin de recueillir l'instruction de Dieu. Je parlais de l'importance de la louange, je parle maintenant de l'importance de la lecture, de la réception, de notre position de disciple, d'élève devant notre Maître céleste, d'enfant devant notre Père céleste. Lecture, étude, pratique de la Bible comme source de sagesse. La sagesse que nous aurons alors, en la construisant petit à petit, nous fera du bien à nous et aux autres. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Amen.